Le sommeil. Ce truc que tout le monde est censé faire et que personne ne fait bien. C'est quand même dingue. On fait ça depuis qu'on est né. C'est gratuit, ça nécessite zéro compétence. Et pourtant, à la base, il y avait un système. Morphée, dieu grec du sommeil, plongeait les gens dans des rêves doux et réparateurs. Le marchand de sable, lui, passait le soir saupoudrer les paupières des enfants sages. C'était beau. C'était organisé. C'était le service public du rêve. Sauf que depuis Morphée, il a craqué. Franchement, on le comprend. Des millénaires à gérer le sommeil de l'humanité entière, sans RTT, sans reconnaissance, et les gens qui se plaignent quand ils font des cauchemars. Nous aussi, on aurait craqué. Aujourd'hui, Morphée est en arrêt maladie longue durée. Le marchand de sable s'est reconverti en influenceur litri sur Instagram et nous, on est là, dans le noir, seul, avec notre cerveau éveillé. Et notre cerveau, parfois la nuit, il fait n'importe quoi. Il commence par les moutons. Pourquoi des moutons ? Qui a décidé ça ? Quelqu'un un jour a dit « Comptez des moutons !» et tout le monde a suivi sans demander pourquoi. On est des moutons qui comptent des moutons. C'est du capitalisme cognitif. Et ça marche pas. Ça n'a jamais marché d'ailleurs. Vous êtes là à compter 1, 2, 3 et d'un coup, vous pensez à la laine, puis au pull. Puis au pull Bordeaux que vous a offert votre belle-mère à Noël. Vous savez, celui qui gratte. Celui qu'elle a choisi pour vous faire plaisir, pour vous rendre compte qu'en fait, il est en acrylique. Et là, c'est foutu. Il est 2h du matin et vous êtes en rage totale. L'insomnie, c'est ça. C'est pas dramatique, c'est juste votre cerveau qui décide de régler tous ses comptes en retard au pire moment possible. Le pull. Ce que vous avez mangé à midi. Si vous avez bien fermé la bouteille de gaz. Ce rendez-vous chez le dentiste que vous repoussez depuis 8 mois. Le prénom de la fille assise à côté de vous en CE2. Tout ça la nuit, en boucle, dans le noir, sans que vous ayez rien demandé. En France, un adulte sur 5 souffre d'insomnie chronique. C'est des millions de gens qui ont besoin qu'on leur parle du sommeil. Alors, on va le faire. Et essayez de rester éveillé au moins pendant l'émission. Vous dormirez mieux après. Enfin, normalement.
On m'a toujours dit qu'on passait à peu près un tiers de notre vie à dormir. Et donc j'imagine que si on passe autant de temps à faire ça, c'est que ça doit avoir un impact. Pour savoir quel impact ça a, et surtout sur notre santé, et pourquoi un nombre croissant de personnes ont l'impression de mal dormir, nous allons réaliser cette émission avec la CPTS, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé des Bauges, et je reçois pour cette émission Maude Duchesne, infirmière libérale et présidente de la CPTS. Bonjour Maude.
Bonjour.
Et Edmond Guillon, qui est le coordinateur de la CPTS. Bonjour.
Bonjour.
Maude, est-ce que tu peux, justement sur cette question de sommeil, nous dire comment ça marche ?
Donc oui, effectivement, le sommeil a une architecture particulière. Il n'est pas uniforme et il correspond à une succession de 3 à 6 cycles qui durent à peu près entre 60 et 120 minutes. On a tous entendu le terme de train du sommeil. Alors ce train du sommeil, il va être découpé en plusieurs wagons, donc ça va être ces cycles qui vont être plus ou moins longs. Le premier, c'est l'endormissement. C'est cette phase où on se dit « allez, je vais me coucher ». Et je me détends. Le deuxième, ça va être ce qu'on appelle le sommeil lent léger, qui est plutôt un état de relaxation où on est encore un petit peu là et puis on commence à s'en aller tout doucement. Vient ensuite le sommeil qui est lent profond, donc c'est celui qui va nous permettre une espèce de régénération, une réparation du corps. C'est là aussi où va se passer tout ce qui est mémorisation verbale et puis plus ou moins spatiale. Et là, en théorie, on n'entend plus trop ce qui se passe autour de nous, mais quand même, on peut être facilement réveillé. Et en fait, Enfin, le dernier train, ça va être ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. C'est ce qui est un petit peu le moment le plus magique, c'est là où il y a les rêves. Et c'est là où il se passe plein de choses au niveau du cerveau, puisqu'on est dans un état où on peut avoir les yeux, par exemple, qui peuvent bouger, mais on n'est quand même pas connecté avec ce qui se passe en dehors. Et c'est vraiment le moment où il y a tous les rêves et toutes les connexions.
Tu as parlé de cycles, est-ce que ça veut dire que ceux-là vont se répéter de manière similaire tout au long de la nuit ?
Alors non, effectivement, donc le train, on va dire que pendant le sommeil, les wagons vont s'allonger ou se raccourcir en fonction des cycles. Donc effectivement, la composition du sommeil, elle va évoluer en fonction de l'heure et de la nuit, mais aussi elle évolue en fonction de l'âge et de nos besoins en sommeil.
Je disais en introduction que beaucoup de personnes se plaignent de la qualité de leur sommeil. Est-ce que, Edmond, ça veut dire qu'il y a un problème de sommeil chez les Français ?
Alors, en fait, les Français dorment trop peu. D'après le baromètre de Santé publique France, le temps de sommeil des adultes en France est de 6h42 par 24 heures durant la semaine, soit en dessous des 7 heures minimales quotidiennes qui sont recommandées. Et autre élément important, plus d'un tiers des 18-75 ans dorment moins de 6 heures par nuit, donc petite nuit.
Alors est-ce qu'on peut se dire que pour essayer de rattraper ces nuits un peu courtes, la sieste serait une bonne idée ?
Alors évidemment, la sieste, c'est toujours une bonne idée. 40% des Français font au moins une sieste chaque semaine, et parfois plus. Et lorsque le besoin de sommeil nocturne n'est pas couvert, cette pratique apporte des bénéfices avec un gain de vigilance et de performance. Une sieste type dure entre 15 et 20 minutes.
Maud, j'aime bien comprendre, tu le sais, ce qui se passe dans mon corps. Et j'aimerais bien savoir quel mécanisme qui fait qu'on va tomber dans le sommeil.
Oui, effectivement, l'endormissement ne se déclenche pas par hasard. Il y a plusieurs actions, il y a une convergence de plusieurs facteurs qui vont se combiner pour t'emmener petit à petit vers le sommeil. Donc tout d'abord, ça va être, si tu veux, une espèce d'inhibition des centres de l'éveil dans ton cerveau qui, petit à petit, au gré de la journée, tu vas te sentir de plus en plus fatigué. Et donc ça, c'est pas par hasard que ça survient. Et ensuite, également, il y a ce qu'on appelle le cycle circadien. Est-ce que tu sais ce que c'est ?
J'imagine que ça n'a rien à voir avec des jongleurs et des panthères qui sautent dans des cerceaux.
Non, c'est ça. C'est pas du tout, effectivement. En gros, si tu veux, le processus circadien, c'est un petit peu comme quand t'es dans un avion et que tu vas aux États-Unis, tu vas être complètement déréglé. Le cycle, c'est vraiment circadien, c'est ce qui va permettre d'être en éveil le jour et endormi la nuit. Donc, c'est un petit peu ça qui fait que tu t'endors pas à n'importe quel moment de la journée.
Et j'imagine qu'il y a un grand chef d'orchestre de tout ça.
Et oui, effectivement. Et souvent, ce qui orchestre notre corps, c'est bien souvent les hormones. Et est-ce que tu connais l'hormone du sommeil ?
Alors, si je me fie à ce que je vois en pharmacie, ça doit être la mélatonine.
Ouais, exactement. Alors, elle est très à la mode en ce moment parce qu'on la surnomme l'hormone du sommeil. Alors, il n'y a pas qu'elle, mais celle-ci est très importante et surtout parce qu'elle favorise... Elle favorise le déclenchement du sommeil. Et elle est sécrétée par le cerveau, donc par une glande qu'on appelle la glande pinéale, et surtout en situation d'obscurité. Et lorsqu'elle est libérée en début de nuit, elle va favoriser le déclenchement du sommeil. Et à l'inverse, ce qu'on peut voir, c'est que quand on va utiliser des écrans, etc., le soir, ou quand tu es dehors à la lumière du jour, le jour en fait, va stimuler ta rétine, tes cellules de la rétine qui vont percevoir du coup la lumière et inhiber la sécrétion de mélatonine. Tout ça est tu as très bien dit, un orchestre qui est bien, bien harmonieux.
Et alors, on en vient à la question quand même un peu centrale, j'ai l'impression, qui touche le sommeil, c'est que si on regarde des écrans, il y a de la lumière.
Effectivement, puis il y a surtout un type de lumière, donc c'est des lumières LED souvent, et qui sont riches en lumière bleue. Donc tu as déjà dû entendre ce terme, et cette lumière spécifiquement va stimuler de façon assez forte la rétine qui est du coup très sensible à cette lumière et va retarder l'endormissement. Donc effectivement, il y a vraiment un vrai avertissement des chercheurs et puis donc des médecins et du corps médical autour de ces pratiques de téléphone et d'écran le soir qui, au-delà de la lumière bleue, sont aussi de plus en plus des mécanismes d'addiction. On voit, on a besoin du téléphone et on scrolle comme ça toute la soirée et qui vont en plus sécréter de l'adrénaline, de la dopamine. On en a déjà bien parlé de ces hormones qui sont plutôt excitantes et du coup qui sont un peu l'opposé de la mélatonine qui va te détendre et t'endormir.
Edmond, est-ce que on pourrait pas juste se dire bon allez, c'est pas grave, produisons de la dopamine et ne dormons pas. Le sommeil a vraiment une importance?
Alors en fait, le sommeil, c'est bien plus qu'une pause pour récupérer. Les données d'imagerie décrivent qu'un nouvel apprentissage est associé au cours de la nuit à l'augmentation du nombre d'épines dendritiques qui sont des excroissances qui connectent les neurones entre eux et facilitent le passage d'informations. Donc c'est vraiment une période cruciale pour chaque individu dans la nuit. Mais c'est surtout une période très importante pour les nouveau-nés qui ont besoin de dormir deux fois plus longtemps que les adultes pour justement faciliter cette période de construction de l'être humain.
Donc on peut se dire qu'en gros, jusqu'à 20 ans où on est en apprentissage profond, le sommeil a une importance qui est cruciale.
Cruciale.
Et au-delà du fait de se dire « allez, je dors la nuit pour intégrer tout ce que j'ai appris la journée », est-ce que d'un point de vue santé, ça peut avoir d'autres impacts ?
Alors oui, il y a beaucoup, beaucoup de conséquences sur l'absence de sommeil et puis beaucoup de bénéfices à dormir le mieux qu'on peut. Alors effectivement, juste, on va quand même dire qu'on n'est pas dans un monde parfait, qu'on proposera des choses, mais en se disant, en adaptant aussi à notre vie. Mais ce qu'on peut voir, par exemple, c'est la prise de poids. Alors on ne fait pas toujours le lien entre le sommeil et la prise de poids. Or, le fait d'être privé de sommeil, ça va augmenter l'appétit puisque ça module tout notre système hormonal, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça va du coup favoriser des grignotages, des apports caloriques qui seront de plus en plus importants. Le cerveau, on sait que pour fonctionner, il a besoin de sucre et quand il est fatigué, bah, il va aller chercher de plus en plus ce type d'aliments et qui font que bah, après, le corps va faire des réserves. On est fatigué, donc il y a une baisse des dépenses énergétiques, une somnolence sur la journée, etc. Et donc tout ça combiné favorise une prise de poids. Il y a aussi une donnée qui est assez intéressante au niveau épidémiologique qui montre qu'une corrélation entre la durée de sommeil moyenne d'une population et son indice de masse corporelle. Et on voit aujourd'hui que nos sociétés, les sociétés industrialisées, si on peut dire ça comme ça, voilà, il y a de plus en plus de gens en surpoids, d'obésité. C'est un problème, même nous en France maintenant, qui devient assez conséquent, et surtout dans la population des jeunes et des ados. Parce qu'il y a une consommation des écrans plus, parce qu'il y a effectivement une consommation de sucre, mais parce que nos enfants dorment de moins en moins. Et un enfant, en moyenne, à 12 ans, par exemple, il est censé dormir entre 10 et 12 heures par nuit, normalement. Alors après, le rythme de vie, le collège, on rentre, il est 6 heures passées, on mange. Ils ne peuvent pas faire ces 10 à 12 heures de sommeil, mais il faut essayer de s'y tendre le plus possible.
Et moi, tu viens de parler d'hormones. Le poids n'est pas la seule chose qui est gérée par les hormones, Edmond. Il y a d'autres choses sur lesquelles ça peut avoir un impact, la privation de sommeil ?
Alors oui, évidemment, la diminution de la durée du sommeil perturbe le rythme circadien dont on a parlé tout à l'heure, qui est le rythme finalement qui régule la synthèse de certaines hormones comme le cortisol ou l'hormone de croissance qui sont impliquées dans le métabolisme du glucose. Glucose, ça veut dire que ce phénomène favoriserait l'apparition d'une intolérance au glucose qu'on voit de plus en plus et une évolution progressive vers le diabète de type 2, indépendamment de la prise de poids dont Maud parlait tout à l'heure.
Donc le cycle hormonal, on a bien pigé, c'est important. Mmh. Est-ce qu'au-delà de ça, avoir un mauvais sommeil va induire une mauvaise santé ?
Oui, parce que ça va impacter ce qu'on appelle ton système immunitaire. Donc, il y a pas mal de données qui démontrent le lien entre le sommeil et l'immunité, et surtout sur la qualité de ta réponse immunitaire, c'est-à-dire sur comment ton corps va réagir s'il doit te défendre face à un microbe, voilà, quelconque. Il y a vraiment une corrélation avec ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le rythme circadien, donc c'est-à-dire qu'il va varier selon l'heure de la journée. Et la nature ou le nombre des cellules immunitaires, comme les leucocytes, donc qui sont les globules blancs par exemple, vont être altérés par la privation de sommeil. Et ça, ce qui est important, c'est que procédé-là, ces effets vont se manifester dès la petite enfance. C'est-à-dire qu'une courte durée de sommeil dès les premières années de vie semble associée à un taux accru de certaines cellules qui vont être pro-inflammatoires ou de molécules qui vont être retrouvées dans plusieurs pathologies comme l'obésité, le diabète, le cholestérol ou la dépression une fois adulte.
Edmond, d'autres problèmes de santé qui pourraient être induits par, liés au sommeil ?
Alors oui, une mauvaise qualité ou quantité de sommeil est associée à une détérioration de la santé, des problèmes d'humeur, de la dépression, une prise de poids dont on a parlé, des infections, du diabète, de l'hypertension. Et on a notamment établi un lien avec un risque fort cardiovasculaire. Des chercheurs de l'INSERM ont montré que les composantes du sommeil, la durée, la fréquence des insomnies, les somnolences diurnes excessives et les apnées du sommeil, ont un impact direct sur le risque d'accident coronarien et d'AVC.
Waouh ! Donc, qualité et quantité de sommeil, c'est vraiment des facteurs à privilégier. Et alors moi, la question que je me posais, c'est que j'ai quasiment jamais entendu mes grands-parents se plaindre de la qualité de leur sommeil et qu'aujourd'hui, dans la moindre pharmacie dans laquelle tu vas, tu as des étagères pleines de « dormez mieux » avec plein de solutions médicamenteuses qui sont proposées. Est-ce que c'est un problème sociétal ?
Alors c'est un problème sociétal et les chiffres sont un peu inquiétants aujourd'hui puisqu'une proportion élevée de Français souffrent de problèmes de sommeil. Les plus fréquents sont l'insomnie, dont tout le monde a entendu parler, qui touche quand même 15 à 20% des personnes. Ça fait pratiquement une personne sur cinq, donc c'est vraiment énorme. Le syndrome d'apnée du sommeil dont on a parlé tout à l'heure, qui touche 4 à 6% des adultes et qui devient un phénomène aujourd'hui de plus en plus fréquent. Le syndrome des jambes sans repos, qui touche 2 à 6% de la population. Les parasomnies, qui touchent 2 à 4% de la population. Et les hypersomnies rares, qui là sont plus ponctuels, qui touchent moins d'1% de la population.
Donc là, ce que vient de décrire Edmond, Maud, ce sont des causes de perturbation du sommeil, comme tout à l'heure on a évoqué les conséquences. Est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail, justement, en se disant de quoi il s'agit ? Parce qu'en général, quand on dort mal, on dit « j'ai fait une insomnie ».
Oui, alors voilà, on a tendance à tout regrouper sous ce terme insomnie. Or, l'insomnie, c'est vraiment une catégorie dans un trouble du sommeil. L'insomnie, déjà, il n'en existe pas une seule, mais il y a des insomnies. Donc, il y en a certaines qui vont être ponctuelles, donc ça va être sur un épisode comme ça, un peu aigu, et d'autres qui vont être chroniques, qui vont s'intensifier et puis qui vont vraiment perturber ta qualité de sommeil au long cours. Donc, certaines vont être caractérisées par des difficultés d'endormissement et puis d'autres plutôt par des réveils nocturnes ou par une sensation de sommeil non réparateur, non récupérateur. Alors, quand on parle d'une insomnie chronique, c'est-à-dire qui a tendance à être de plus en plus présente et à vraiment perturber la qualité de vie, elle suit généralement un schéma qui est à peu près en trois étapes. D'abord, il va y avoir un facteur prédisposant, c'est-à-dire peut-être une susceptibilité génétique ou psychosociale, comme un traumatisme que tu as pu avoir dans l'enfance. On va dire peut-être un terreau un petit peu pas assez fertile pour la qualité du sommeil. Ensuite, un facteur qu'on appelle précipitant, qui va être plutôt un élément déclencheur en raison duquel le patient va basculer dans l'insomnie. Ça peut être une difficulté dans la vie, un stress, un surmenage ou une maladie ou quelque chose qui va, un événement, un facteur déclenchant. Et ensuite, troisième mécanisme, ça va être un facteur d'entretien qui va contribuer à installer le trouble plutôt dans la durée, comme des habitudes qui vont être inadaptées ou une anxiété face à la nuit. Donc, tout ça fait que potentiellement, tu vas pouvoir développer et puis mettre en place des mauvais mécanismes pour ton sommeil.
Edmond, tu l'as évoqué aussi, il y a presque 6% des adultes qui souffrent d'apnée du sommeil.
Alors oui, l'apnée du sommeil, c'est donc un trouble respiratoire dont la fréquence augmente avec l'âge, le surpoids ou l'obésité. Qu'est-ce qui se passe ? Durant la nuit, en fait, de courtes apnées surviennent en raison de l'obstruction de la gorge par la langue et du relâchement des muscles du pharynx. Elles aggravent à terme le risque cardiovasculaire dont on parlait tout à l'heure et favorisent aussi une fatigue et une somnolence au cours de la journée. Cette pathologie qui est un peu particulière est finalement assez méconnue souvent, reste longtemps silencieuse, si bien qu'elle est probablement sous-estimée dans les chiffres qu'on a pu donner tout à l'heure dans la population générale. Et donc, si on a un conseil à donner, si votre médecin vous prescrit une surveillance de l'apnée du sommeil, faites-le. C'est sans douleur et ça peut permettre d'éviter des problèmes à long terme.
Et alors Edmond, il y a une question que je me pose, et je voudrais savoir si ça existe, c'est que dans certains films, on a toujours le personnage un peu caricatural qui va s'endormir dans son assiette. Est-ce que ça existe vraiment ce genre de trouble ?
Alors oui, à l'opposé de l'insomnie dont parlait Maud tout à l'heure, certaines personnes sont envahies par un besoin irrépressible de sommeil. C'est une maladie, hein, une maladie rare, mais qui entraîne des perturbations majeures de la vie quotidienne et sont souvent associées à des troubles psychosociaux et médicaux potentiellement graves. Donc là aussi, si on a ce type de symptômes, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin parce que ça peut être finalement un révélateur d'un problème de santé beaucoup plus grave.
Et est-ce qu'il existe des perturbations du sommeil, mais dont le dormeur ne se rend pas compte, qui arrivent pendant le sommeil, pour le coup ?
Alors en fait, les parasomnies dont on parlait tout à l'heure, ça correspond à un ensemble de phénomènes anormaux qui se produisent lors du sommeil lent, profond ou du sommeil paradoxal. Les plus fréquentes que tout le monde connaît sont le somnambulisme, mais il existe aussi le bruxisme, qui est le grincement des dents, qui est souvent un peu désagréable pour le conjoint qui partage son lit, les terreurs nocturnes, qui touchent plus fréquemment les enfants, et les nuresies. Au cours du sommeil paradoxal peuvent aussi se manifester des mouvements violents, des comportements sexuels inconscients appelés sexsomnie, un peu curieux, mais ça existe.
Et moi, il y a un problème d'endormissement surtout que j'ai rencontré quand j'étais enceinte pendant mes grossesses, qui a tendance à plutôt disparaître, ça paraît plus ponctuellement maintenant, mais qui faisait que j'avais l'impression que mon corps était trop petit pour moi et que j'avais une décharge d'énergie au niveau des jambes.
Alors effectivement, le syndrome des jambes sans repos, qui touche 2 à 8% de la population, quand même essentiellement une population féminine, hein, se caractérise par un besoin irrépressible de bouger les jambes, associé à des sensations désagréables au niveau des membres inférieurs. Ces symptômes se manifestent habituellement pendant les périodes de repos ou d'inactivité et s'intensifient en soirée puis au cours de la nuit. Ça perturbe évidemment grandement le sommeil.
Il faut dormir maintenant. Les parents veillent sur vous.
C'est calme et rassurant. Bonne nuit, petit loup.
Blotti au fond de vos draps, les étoiles ont fait leur nid.
C'est Morphée qui vous tend les bras. Bonne nuit, mes chéris.
J'entends comme un bruit qui remue dans le placard, un cliquetis gesticulant dans le noir, ce doit être le vent. Voilà ce qu'on me dit tout le temps.
J'entends quelqu'un qui respire derrière ma porte, une espèce de vampire à moitié cloporte. Ce doit être dans ma tête. Voilà ce que l'on me répète.
J'entends sur les toits comme des bruits de pas, comme si Dracula tentait de rentrer chez moi. C'est mon imagination. Voilà ce que l'on me répond.
J'ai peur du noir.
On voit rien et c'est fait exprès.
On me fait croire
qu'il y a rien mais c'est même pas vrai.
J'ai peur du noir.
J'y peux rien, j'ai pas fait exprès.
Il faut me croire.
Jusqu'ici tout va bien mais après.
J'entends gratter sous le sommier comme des araignées qui grouillent. Par centaines et par milliers, ça doit être un bruit qui court. Voilà ce qu'on me dit toujours.
Un monstre barbu, avec des yeux sur les ongles vermoulus, patiente ta vie dans l'ombre, mais c'est moi qui débloque. Voilà ce que l'on me rétorque.
C'est quand tout s'éteint que ça commence à défiler. Sorcière, lutin, envahis sur le plancher, mais c'est moi qui perds les pédales. Voilà comment les gens me parlent.
J'ai peur du noir.
On voit rien et c'est fait exprès.
On me fait croire
qu'il y a rien mais c'est même pas vrai.
J'ai peur du noir.
J'y peux rien, j'ai pas fait exprès.
il faut me croire.
Jusqu'ici tout va bien, mais après, il fait tellement chaud. Sous ces couvertures, il ne faut laisser aucune ouverture. Si je laisse, ne serait-ce qu'un pied dépassé, je me le fais manger.
Je sais qu'il n'existe pas, je ne suis pas un fou, mais c'est plus fort que moi. J'en devine partout, j'ai peur du noir.
On voit rien et c'est fait exprès.
On me fait croire
qu'il y a rien, mais c'est même pas vrai.
Le soleil arrive enfin, debout, le petit loup.
Sachez que les seuls monstres qu'il y ait ici, c'est vous.
C'est la boussole santé avec la CPTS sur Radio Alto. Est-ce que le fait de manquer de sommeil ou d'avoir une perturbation de son sommeil peut entraîner un développement de maladie ?
Effectivement, tu te doutes bien, voilà, on a besoin de boire, de manger, de respirer, on a besoin de dormir aussi. Et donc c'est un élément vital pour pouvoir vivre. Et forcément, quand tu as des difficultés de sommeil qui sont prolongées, ta santé va être altérée. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant actuellement, c'est qu'on se pose la question de savoir, typiquement au sujet des démences, est-ce que on a remarqué qu'il y avait des troubles du sommeil chez les personnes qui développent des démences. Est-ce que le trouble du sommeil est un facteur déclenchant, aggravant ou potentiellement qui induise une maladie, une démence, ou est-ce que les troubles du sommeil sont un des premiers symptômes primaires, on va dire, d'une potentielle démence après. Donc là, les chercheurs s'activent activement sur ces recherches-là parce qu'il y a quand même vraiment une corrélation entre démence et troubles du sommeil. Ensuite, tout ce qui est au niveau des risques psychiatriques, des maladies psychiatriques, les données épidémiologiques suggèrent vraiment un lien entre les troubles du sommeil et la dépression, par exemple. Et c'est vrai que les chercheurs tendent vraiment à clarifier si les troubles du sommeil rendent les personnes plus vulnérables au risque de dépression et ou pareil, ou est-ce que c'est l'inverse. Et puis, quelque chose qui n'est pas très fun à expliquer comme ça, mais on voit quand même aussi que les troubles du sommeil peuvent induire aussi des comportements suicidaires. Et pour aller dans une expression de cet argument-là, peut-être pas très joyeuse, on voyait aussi dans les camps de concentration que la privation de sommeil était une des plus grandes tortures qu'on pouvait faire vivre à des populations.
Et est-ce que des personnes qui auraient un travail de nuit, le fait de justement de travailler la nuit peut avoir une incidence sur leur santé ?
Effectivement, oui. On voit que les mécanismes qui sont identifiés entre le sommeil et l'immunité, comme on l'a dit tout à l'heure, pourraient probablement aider à comprendre l'augmentation de la fréquence des cancers, par exemple, chez les travailleurs de nuit. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une incidence sur le système hormonal. Et donc, il y a quand même une prévalence plus importante chez cette population de travailleurs de nuit, de développer des cancers hormonaux du type cancer du sein, cancer de la prostate et aussi cancer du côlon qui vont, effectivement, on peut facilement imaginer qu'on va pouvoir casser la croûte pendant le service de nuit, ce qui fait que le système digestif n'est pas vraiment au repos et du coup favoriser une espèce de désynchronisation du rythme circadien, toujours ce qu'on a expliqué tout à l'heure, et qui pourrait influencer des voies de signalisation moléculaire standard.
Alors, normalement, si tout se passe bien, c'est le moment de l'émission où vous dites « Ok, là, on a dressé le tableau le plus noir possible, mais pas de panique, petit crabe, maintenant, on va voir les solutions. » Edmond, dis-moi qu'on peut améliorer son sommeil.
Alors oui, évidemment, comme sur tous les sujets, on peut prévenir les problèmes de sommeil, on peut améliorer son sommeil assez facilement. Premier conseil, qui est le conseil numéro un de tous les spécialistes, c'est respecter un rythme circadien régulier avec des heures de coucher et de lever qui sont constantes. Alors en fait, cet horaire constant a un effet synchronisateur sur le cycle veille-sommeil et permet de le réguler. Donc se lever tard le matin ne fait que retarder l'heure du coucher de la nuit suivante. Donc c'est important d'avoir une régularité, y compris le week-end. Faire la grasse matinée, c'est quand même très agréable de temps en temps. Mais en fait, ça perturbe l'horloge interne et ça rend l'endormissement du lendemain un peu plus difficile.
Ça veut dire quoi, Maud? Ça veut dire que on vit avec une montre et tout est timé, ou notre corps est capable lui-même de nous envoyer deux, trois trucs?
À ton avis.
Notre corps est très bien
mais
fait.
Voilà, la machine est très complexe, mais elle est quand même bien étudiée. Effectivement, il ne faut pas forcer le sommeil, parce que effectivement, voilà, si tu n'es pas fatigué, il ne faut pas que tu te dises, bon, c'est 21h, je vais me coucher, ou 22h, c'est l'heure du dodo, et hop là. Et c'est un peu la guéguerre qu'on a avec les enfants, souvent, je ne suis pas fatiguée. Et en même temps, quand on ressent nos signes de fatigue, qui vont être des signes assez standards, hein, le bâillement, les yeux qui piquent, les paupières lourdes, voilà, c'est important de ne pas les ignorer parce qu'on risque de rater notre train du sommeil. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure et ça nous est tous arrivé à lutter à 18h30, 19h et de se dire non, c'est pas le moment d'aller se coucher et puis à 22h, 23h d'avoir les yeux grands ouverts. Alors on le fait très facilement avec les enfants parce que c'est plus simple. Voilà, il est fatigué, il est grognon, etc. Parce que là, je vous parlais des symptômes, enfin des signes plutôt physiques, mais on commence aussi à avoir un peu d'agacement, un petit peu d'énervement, peut-être un peu moins de patience. Donc tous ces symptômes un peu plus émotionnels aussi doivent un peu alerter. Et effectivement, c'est pas simple. On va pas aller se coucher à 18h30 parce que la vie ne nous le permet pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais peut-être au moins de ralentir et de s'accorder un petit peu de douceur le soir.
Et est-ce que quand les premiers symptômes annonciateurs du sommeil arrivent, on se dit c'est pas grave, je me couche n'importe où, ou l'environnement de sommeil a son importance, non?
Alors oui, troisième conseil qui est finalement relativement simple à suivre, c'est soigner son environnement de sommeil. La chambre doit être un sanctuaire dédié au repos. Donc en fait, il faut créer les meilleures conditions environnementales, éviter le bruit, éviter une chambre trop chaude ou trop froide, choisir un lit confortable, évidemment, c'est très important. On s'endort mieux dans de bonnes conditions de confort, de tranquillité et d'obscurité. Les experts recommandent en général une température dans la chambre autour de 18-19 degrés, propice à une baisse naturelle de la température corporelle qui va favoriser l'endormissement.
Et pour favoriser cet endormissement, est-ce qu'il y a des substances, aliments, produits qu'il vaut mieux éviter en soirée?
Alors, en soirée, ça dépend quelle soirée.
On va dire dans un quotidien normalisé.
Dans une soirée habituelle, effectivement, il y a effectivement tous les excitants comme le café, les boissons sucrées comme les sodas, Coca-Cola, etc. Tout ce qui va être cigarette et bien sûr l'alcool. Donc on évite ça à partir de 17h le plus possible. Alors on a une vie sociale, on est bien d'accord qu'il faut vivre et que le plaisir aussi nous maintient en bonne santé, mais de façon modérée. Et juste comme ça, un petit chiffre, la caféine, elle a une demi-vie de 5 à 6 heures. Donc l'organisme va garder la caféine dans le corps et l'excitation induite. Et quand on se dit, allez, je bois un petit coup pour bien dormir, avoir un petit coup de massue sur la tête et se dire, je dormirai mieux, je m'endormirai un petit peu plus vite et puis j'oublie mes soucis. Eh bien non, ce serait trop facile. L'alcool, effectivement, a un effet sédatif, mais il ne vous donne pas l'accès à un dernier train qui est le sommeil paradoxal, ou du moins pas en entier, au niveau du wagon. Et du coup, la qualité du sommeil est quand même moindre. Et tout le monde l'a déjà vécu, alors sans parler de la gueule de bois, mais le lendemain d'une soirée où on a pu un petit peu boire, on ne se sent pas forcément bien reposé, même si on a beaucoup dormi.
Et comme depuis que je vous fréquente, je me dis, connais-toi toi-même. J'ai constaté qu'après une choucroute ou un cassoulet, je dors vachement moins bien.
Alors évidemment, il est conseillé le soir de ne pas faire un repas trop gras ou trop lourd, car les aliments gras difficiles à digérer entraînent une fragmentation du sommeil. Donc au dîner, il vaut mieux favoriser les sucres lents, qui sont un élément favorable de la production de sérotonine indispensable à la sécrétion de la fameuse mélatonine, l'hormone du sommeil. Et il est également conseillé de manger au minimum 2 heures avant d'aller se coucher. Donc la choucroute, pourquoi pas 2-3 heures avant d'aller se coucher, mais pas 10 minutes avant, parce que le sommeil va être difficile à trouver dans ce cas-là.
Et j'imagine qu'on ne va pas pas finir ces recommandations. Enfin, on va pas faire ces recommandations sans aborder la thématique de l'écran.
Et oui, c'est une grande problématique. Alors, sans vouloir être les rabat-joie et voilà, exprimer ce qu'on sait tous, et on a tous un petit peu du mal à le faire parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est un problème qui devient sociétal. On a exprimé aussi tout à l'heure que les problématiques qui étaient induites dans l'enfance avaient des répercussions à l'âge adulte. Nous, on a été assez épargnés quand même, nos générations, en tant qu'enfants avec les écrans. Et aujourd'hui, on voit bien que donc, tout ce qui est lumière bleue, les LED, etc., donc, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, stimule les cellules de la rétine et du coup retarde l'endormissement, avec des modes de vie qui sont quand même assez actifs pour nos enfants et qui font en sorte, enfin qui du coup ne permet pas les heures de sommeil qui leur seraient requises. Donc les recommandations seraient peut-être d'instaurer un couvre-feu numérique, voilà, au moins une heure avant d'aller se coucher, mais dans l'idéal c'est 1h30. Ranger le téléphone, on éteint la télé et on privilégie des activités apaisantes qui peuvent être de la lecture, de la musique douce, voilà, des exercices de respiration. Alors après, j'imagine que tout le monde n'a pas envie de se dire tiens, chouette, ce soir on fait un exercice de respiration, mais quelque chose qui a tendance à nous détendre. À l'époque, les anciens faisaient des veillées. C'était un temps, un temps où on était quand même ensemble, mais où le temps s'arrêtait petit à petit. Il y avait le tricot, il y avait plein de petites choses comme ça. Ça pouvait être des mots croisés, de l'écriture, des temps calmes pour soi et de partage.
Et est-ce que dans ces temps partagés, je peux me dire, allez les enfants, avant d'aller se coucher, on va se faire un petit footing récupérateur, histoire de bien vous assommer et que vous dormiez d'un coup?
Alors oui, effectivement, c'est une vraie question sur l'activité physique. Un exercice régulier d'activité physique améliore la qualité du sommeil, mais le timing de l'activité est très important. Évidemment, on ne va pas faire du sport intensif, encore une fois, comme pour le repas, 10 minutes avant d'aller se coucher. C'est important de faire du sport et ça améliore la qualité du sommeil, mais encore faut-il le faire au bon moment. Les facteurs extérieurs qui perturbent le déclenchement ou le maintien du sommeil incluent notamment la pratique tardive du sport et une activité physique modérée pratiquée dans la journée ou en début de soirée est bénéfique en revanche. On le disait tout à l'heure pour un repas, si on fait une activité physique 2-3 heures avant d'aller se coucher, ça peut être bénéfique. Si on le fait 10 minutes avant, le sommeil va être très compliqué à trouver. Donc en fait, il faut éviter de s'entraîner intensément juste avant d'aller se coucher, pour une raison physiologique toute simple, hein, c'est que l'exercice physique élève la température corporelle et le taux d'adrénaline, et ça rend évidemment l'endormissement plus difficile.
Et d'autres phases où je ne suis pas au top de mon endormissement dans la seconde, c'est des phases où je me sens un peu stressée. C'est normal, j'imagine.
Eh bien oui, c'est normal. Fin de journée, tu n'as pas pu faire tout ce que tu veux. Il y a plein de choses, les rendez-vous à prendre, tout ce qui n'a pas bien roulé ou ce qui va se passer le lendemain qui peut te stresser. C'est ce qu'on appelle les ruminations. Et effectivement, tenter de les résoudre avant de se coucher, finalement, ça va provoquer plus d'anxiété et de malaise qu'autre chose. Et du coup, ton sommeil sera de moins bonne qualité. Alors, c'est facile à dire, ne ruminez pas avant de dormir, Mais il y a plein de techniques de relaxation qui existent. Il y a la cohérence cardiaque, la respiration, etc. On parlait d'activité physique tout à l'heure, hein, les petits câlins, ça fait du bien. Alors, pas les câlins sportifs, on les garde pour le matin, on a bien compris. Les câlins du soir avec ses enfants, avec son chéri ou sa chérie. Voilà, des temps plutôt propices à faire le plus possible naître de la sérénité, de se dire, les problèmes, on les met dans une boîte et puis on ouvrira la boîte demain matin.
Et est-ce qu'il y a un moment, Edmond, où on se dit, là, clairement, je suis au-delà de « j'ai pas bien dormi », je sens que la qualité de mon sommeil est problématique?
Alors effectivement, il faut prêter attention à certains signaux qui doivent absolument être relevés et qui doivent finalement entraîner une consultation chez le médecin pour voir s'il n'y a pas une cause à ces difficultés de sommeil. Premier élément évident et sonore, c'est un ronflement important. Ça peut effectivement perturber le sommeil et avoir des conséquences sur la santé, on l'a dit tout à l'heure. Des pauses respiratoires nocturnes qui sont signalées par l'entourage, donc souvent le conjoint quand on est dans le lit. Ce sont les fameuses apnées du sommeil dont on a parlé tout à l'heure. Une somnolence à l'inverse diurne, sévère, qui met en danger au volant ou la nuit, ou nuit à la vie professionnelle. Donc c'est vrai que dans la journée, si dans son activité professionnelle ou quand on conduit ou on a des moments de sommeil brutal, en fait il faut s'en inquiéter parce que ça n'est pas anodin et c'est souvent un signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Et puis, lorsqu'une prise en charge médicale s'avère nécessaire, les thérapies cognitivo-comportementales, ce qu'on appelle les TCC, doivent être privilégiées plutôt que les prises de médicaments. Le principe est simple, hein, c'est de remplacer des comportements inadaptés et des croyances erronées sur le sommeil par d'autres qui sont plus appropriées, de manière à prendre en compte effectivement les problématiques de sommeil.
Est-ce que ça veut dire, Maud, qu'il y a des médecins qui sont spécialisés dans le sommeil ?
Bah oui, effectivement, la médecine du sommeil, elle est vraiment devenue une spécialité universitaire hein, maintenant, donc depuis 2017. Et il y a une centaine de centres du sommeil qui sont homologués en France et en médecine du sommeil. Donc ces centres, ils sont principalement dédiés à l'exploration du sommeil et puis à ses pathologies. Parce que bon, ce que disait Edmond à l'instant, c'est qu'effectivement, on peut agir en fait, sur notre sommeil par nos comportements. Après, il y a des réelles maladies, il y a des réelles maladies qui sont un problème de sommeil et des maladies qui engendrent des problèmes de sommeil. Mais au-delà de ça, pour la grande majorité de la population, ça reste des problèmes comportementaux sur lesquels on peut agir.
Et alors, est-ce qu'en conclusion, on peut se dire tout simplement le sommeil, comme boire, respirer, manger,
ouais,
c'est important.
Bah effectivement, voilà, le message, comme tu dis, il est plutôt clair. Hein, dormir, c'est pas du temps perdu. On a l'impression que le temps s'arrête et qu'il se passe rien. Et en dehors de ça, comme on le disait tout à l'heure, on est des êtres complexes et cette phase de sommeil, on en a réellement besoin en fait pour être en bonne santé. Et il faut peut-être arriver à se dire que dormir, c'est un acte de santé à part entière. Qu'une mauvaise qualité ou quantité de sommeil, bah, ça va accentuer les risques d'irritabilité, par exemple, des symptômes dépressifs, la prise de poids, le diabète, etc. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, sans vouloir tout répéter. Mais améliorer son sommeil, c'est aussi investir pour sa santé physique et mentale. Et puis même cognitive sur le long terme, on voit qu'on vieillit de plus en plus, qu'on n'a pas envie de vieillir mal et puis de perdre la vie qui nous reste en l'oubliant. Et typiquement, le repos du cerveau, puis lui laisser sa place pleine la nuit avec un repos efficace, c'est peut-être ça aussi la réussite d'une bonne santé.
Je crois qu'il va me falloir une bonne nuit de sommeil pour intégrer toutes ces informations. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Ouais, merci. Écoutez la radio avant de vous endormir, c'est une activité calme.
Formidable.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt, merci.
Retrouvez tous les renseignements sur la CPTS des Bouges, ses actions, ses professionnels et ses messages de prévention sur www.radioalto.info à la rubrique Émission des partenaires.